Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un accord inattendu entre les pays producteurs de pétrole. Ils ont décidé ensemble de réduire les extractions de brut pour faire remonter les prix. Accord malgré des différends géopolitiques profonds entre certains pays membres.
Des hôpitaux bombardés à Alep en Syrie et le constat d'échec de la diplomatie par le président américain Barack Obama avoue même que la Syrie n'est pas la priorité militaire numéro un des États-Unis.
Shimon Peres, défenseur de la paix, recevra-t-il les hommages des pays arabes? Pour l'instant, silence radio, y compris de l'Égypte, pourtant officiellement réconciliée avec l'État hébreu.
L'affaire Big Malion revient ce soir sur France 2 avec la diffusion d'un témoignage accablant sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Une embûche de plus dans la course à l'Élysée pour l'ancien président.
Et des peines de prison avec sursis requises contre les salariés d'Air France, jugés pour avoir molesté le DRH de la compagnie l'an dernier lors d'une manifestation devant le siège à Roissy. On parlait hier d'un accord impossible, de différends géopolitiques trop exacerbés pour permettre par exemple à l'Arabie Saoudite et à l'Iran de s'entendre. Mais à la surprise générale, hier, les pays producteurs de pétrole de l'OPEP réunis à Alger ont trouvé un consensus pour réduire les extractions de brut et ainsi faire remonter les prix du pétrole. Un coup de théâtre que nous raconte Clarence Rodriguez en Arabie Saoudite, premier producteur de l'OPEP.
Cet accord sur le gel de la production a été obtenu au forceps après de rudes négociations entre les différents membres, à l'instar de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, deux pays dont l'économie repose essentiellement sur le brut. Le ministre iranien du pétrole avait répété la veille que Téhéran souhaitait avant tout rétablir les niveaux de production d'avant les sanctions internationales, à savoir 4 millions de barils par jour contre 3,6 millions aujourd'hui. Quant à l'Arabie Saoudite, c'est un changement de cap radical, sachant que Riyad refusait jusqu'ici d'envisager une réduction de sa production si les autres pays membres n'allaient pas dans le même sens. Il faut dire que depuis 2 ans, l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole au monde, est confrontée à une crise économique. Le déficit budgétaire l'année dernière a atteint un niveau record de 98 milliards de dollars. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, le roi Salman a décidé de donner un coup de sabre dans les salaires des ministres et des fonctionnaires.
Clarence Rodriguez nous appelait de Riyad en Arabie Saoudite. Un accord spectaculaire tant les tensions diplomatiques pouvaient être vives. Mais qu'en sera-t-il pour le consommateur, pour les prix des carburants? Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, nous dit Francis Duzeul, président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières.
Peut-être une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, parce que le prix du pétrole devrait monter, ne serait-ce que l'effet psychologique. Après, il faudra voir de façon pratique, dans une paire de mois, vraiment s'il y a des coupures de production. 32,5 d'engagement de l'OPEP, ça fait à peu près 1 million de barils par jour de moins que la production actuelle. C'est important hein, dans l'équilibre actuel. Donc monter des prix pour les consommateurs, monter du prix du gazole, monter du prix d'essence, je pense que c'est jamais réjouissant pour les consommateurs. Hein. 85% des gens en France utilisent leur véhicule pour aller au travail ou conduire les enfants à l'école ou faire les courses. Maintenant, l'aspect positif, si je peux dire, c'est que plus le prix du pétrole et des énergies fossiles est élevé, plus les énergies alternatives dans le cadre de la transition énergétique deviennent rentables. Donc, si vous voulez, globalement, si l'enjeu majeur de cette planète pour les années qui viennent, c'est la réduction des émissions, je crois que ça va dans le bon sens.
Francis Duzeul, président de l'Union française des industries pétrolières, il répondait à Manuel Ruffez. La diplomatie impuissante en Syrie. Le constat s'impose après l'échec de la trêve et la reprise des bombardements, plus meurtriers que jamais. Hier, les 2 grands hôpitaux d'Alep ont été frappés par les raids aériens du régime de Bachar al-Assad. L'ONU parle de crimes de guerre. Et le secrétaire d'État américain John Kerry menace de geler la coopération avec Moscou, allié du pouvoir syrien. Les États-Unis qui assument leur impuissance et leur retenue militaire. C'est la première fois que le président Barack Obama le dit aussi clairement. Hier sur CNN, il a affirmé que la Syrie n'était pas sa priorité numéro un.
En Syrie, il n'existe aucun scénario hormis le déploiement d'un grand nombre de troupes qui nous permettrait de faire cesser une guerre civile dans laquelle chaque parti campe fermement sur ses positions. Il ne faut pas oublier non plus que nous devons toujours soutenir le fragile gouvernement irakien et que si nous avons donné les moyens au gouvernement afghan de réussir, nous ne sommes pas au bout du chemin. Donc c'est dans ce genre de situation que vous devez fonder votre jugement sur ce qui est le meilleur pour la sécurité nationale des États-Unis, même si ce que vous voyez vous brise le cœur. L'essentiel en Syrie, c'est que tant que les partis en conflit ne reconnaissent pas qu'elles détruisent le pays et ne s'engagent pas sur la voie diplomatique, franchement, il y a des limites à ce que nous pouvons faire.
Le président américain Barack Obama, des propos traduits par notre correspondant Frédéric Carbone. Et le dossier syrien, on y revient dans la seconde partie des Matins de France Culture de 8h20 à 8h40. La Russie pointée clairement du doigt, également par la justice néerlandaise. Elle rendait hier son rapport d'enquête sur le crash de l'avion de la Malaysian Airlines en 2014 dans l'est de l'Ukraine. Le missile qui a abattu l'engin venait de Russie et avait été acheminé en Ukraine jusque sur une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes. Voilà les conclusions du parquet aux Pays-Bas. Moscou a immédiatement dénoncé un travail d'enquête biaisé avec des motivations politiques. Des funérailles internationales pour un artisan acharné de la paix. L'ancien président israélien Shimon Peres sera enterré demain sur le mont Herzl à Jérusalem, entouré des grands du monde. Barack Obama a confirmé qu'il venait, tout comme Bill Clinton, François Hollande, le prince Charles ou encore le roi d'Espagne, Felipe VI. En revanche, on ne sait pas encore si des dirigeants arabes feront le déplacement. L'Égypte n'a toujours pas réagi officiellement au décès de Shimon Peres. Pourtant, le Caire avait été la première puissance arabe à signer la paix avec Israël en 78. Explication avec François Humfer-Kataji au Caire.
Plusieurs heures après le décès de l'ancien Premier ministre israélien, il n'y a toujours aucune réaction officielle de la part du président Sisi. Pourtant, les liens entre Égypte et Israël depuis le coup d'état de Sisi en 2013 se sont considérablement réchauffés. Le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Shoukry s'est rendu à Jérusalem cet été. Il a même eu ce commentaire remarqué « Nous avons des liens très solides et une relation apaisée avec Israël ». Il a ajouté « L'état d'Israël n'est pas un état terroriste. Il faut dire que les deux pays ont véritablement un ennemi commun ». Le Hamas, émanation des frères musulmans. Alors pourquoi Sisi ne s'est toujours pas exprimé si les relations en coulisses sont si bonnes? Ce silence bien paradoxal traduit bien sûr son embarras, car de façon générale en Égypte, on ne pleure pas la mort de Shimon Peres. Si une grande partie des chefs d'État sur la scène internationale mettent en avant le côté pile de l'homme d'État, celui d'un homme de paix, sur les réseaux sociaux égyptiens, on retient plutôt le côté face, c'est-à-dire un homme qui est à l'origine des bombardements de Kana en 96, tuant 106 civils pendant la guerre israélo-libanaise. On retient son soutien inconditionnel au mur de séparation ou encore à la guerre en Irak. Autrement dit, un hommage appuyé de Sisi à l'ancien homme d'État israélien serait tout à fait mal vu par l'opinion publique, surtout au moment où la popularité de Sisi est au plus bas. Aujourd'hui, les médias israéliens font fuiter des informations sur une éventuelle présence de Sisi aux obsèques de Shimon Peres. Sisi devra donc choisir entre vexer les Israéliens ou soulever la colère des Égyptiens.
Cela ressemble à une nouvelle bavure de la police aux États-Unis. Un homme noir sans arme a été tué par un agent dans une banlieue de San Diego, en Californie. La victime souffrait, selon sa famille, de troubles mentaux. Plusieurs dizaines de manifestants ont défilé hier et avant-hier, reprenant les slogans du mouvement Black Lives Matter contre les violences policières envers les Noirs.
France Culture, 8h08, la suite du journal Amélie Perrier. En France, les embûches se multiplient sur la route de Nicolas Sarkozy.
Après les attaques de son ancien conseiller Patrick Buisson dans un ouvrage publié aujourd'hui, après la mise en examen hier soir de Bernard Squarcini, ex-chef du renseignement intérieur et proche de lui, Nicolas Sarkozy va devoir affronter ce soir la diffusion sur France 2 d'une enquête sur le financement de sa campagne en 2012. Le magazine Envoyé spécial va notamment rendre public le témoignage de Franck Attal en charge de l'organisation des meeting du candidat Sarkozy. Il explique clairement comment les plafonds des dépenses ont été largement dépassés et comment on lui a demandé d'établir des fausses factures pour entrer dans les clous du code électoral. Écoutez la présentatrice d'Envoyé spécial, Élise Lucet.
C'est très intéressant de l'entendre parce que pour le coup, c'est un homme qui était vraiment au cœur de l'organisation des meetings de Nicolas Sarkozy pendant toute la campagne de 2012. Et ce qu'il nous raconte, c'est qu'à partir du meeting de Marseille, qui était vraiment le premier meeting de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2012, il a vu les demandes de l'UMP à l'époque s'emballer. On lui a demandé un réalisateur, on lui a demandé un générique spécial pour l'entrée de Nicolas Sarkozy, on lui a demandé des loumas, c'est-à-dire des caméras qui sont sur des bras articulés. On lui a demandé des moyens qui sont en fait des moyens de cinéma. Donc il a mis tout ça en place et il a vu les dépenses déraper au fur et à mesure et c'est ce qu'il explique avec énormément de précision.
Et quelle est la responsabilité de Nicolas Sarkozy alors dans cette augmentation des dépenses ?
C'est extrêmement difficile de dire précisément quelle est la responsabilité de Nicolas Sarkozy. On a d'autres témoins qui nous parlent, dont Jérôme Lavrieux, qui dit clairement, est-ce que vous imaginez une seconde qu'à un moment, on puisse organiser autant de meetings avec autant de moyens sans que Nicolas Sarkozy soit au courant et sans même qu'il l'ait demandé. Donc ça, c'est pas nous qui le disons. fond, sont des gens de l'intérieur qui le disent. Clairement, il y a eu une volonté, en tout cas, de toute son équipe de campagne, de lui personnellement, point d'interrogation, à la fois de multiplier les meetings et d'en faire des meetings qui, à l'image, donnent une impression vraiment de meeting hyper pro. Il n'y a pas de document précis disant que Nicolas Sarkozy est au courant et qu'il a donné lui-même l'ordre, mais Jérôme Lavrieux dit clairement, est-ce que vous imaginez Nicolas Sarkozy faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire ?
La journaliste Élise Lucet qui présentera Envoyé spécial ce soir à 21h sur France 2. De la prison avec sursis requis contre les salariés d'Air France poursuivis dans l'affaire dite de la chemise arrachée. 2 à 4 mois de prison avec sursis donc ont été demandés hier par le procureur au tribunal correctionnel de Bobigny. Ce n'est pas une opération syndicale mais une opération de casseurs puis de voyous, a-t-il argumenté. Le 5 octobre 2015, une manifestation devant le siège de la compagnie avait dégénéré. L'image du DRH de l'époque, la chemise en lambeaux avait fait la une des journaux et même été reprise à l'étranger. Compte rendu d'audience avec Antoine Marette.
Le réquisitoire du procureur se veut tempéré par le climat particulier de ce 5 octobre. La direction d'Air France venait d'annoncer le licenciement de 2900 personnes. Mais pour Maître Akiki, avocat de deux prévenus, c'est plutôt l'absence de preuves qui conduit à ce qu'il appelle des petites réquisitions.
On invite le tribunal à condamner mollement pour ces faits-là, parce que 3 mois de prison avec sursis, c'est pas beaucoup, entre 2 et 4 mois pour les violences qu'il y a eu. Et en réalité, c'est une invitation à condamner pour soulager la conscience du tribunal en disant « condamnez peu ». Et de toute manière, comme ça, on aura des victimes soulagées, on aura des prévenus qui auraient été condamnés un tout petit peu. Finalement, être condamné un peu, c'est presque ne pas être coupable. Et c'est ça, en réalité, qui a été aujourd'hui suggéré au tribunal.
Pour la partie civile, il y a des victimes et les auteurs des infractions sont clairement identifiés sur les vidéos projetées lors de l'audience. Maître Beaulieu, avocat du DRH d'Air France, Xavier Proseta.
Moi, je considère, pour ce qui me concerne, que les éléments de preuve qui sont dans le dossier du tribunal sont largement suffisants pour caractériser l'infraction sans doute possible de la part de ceux à laquelle elles sont reprochées. Donc, après, le tribunal juge.
Et le jugement a été mis en délibéré au 30 novembre prochain.
Des peines modérées et satisfaisantes, le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble a été plutôt bien accueilli hier par les parties dans le dossier des émeutes de Moiran. L'instance a condamné 11 prévenus, en a relaxé un au bénéfice du doute, à de la prison ferme pour la plupart, avec sursis pour 3 autres. Les faits remontent au mois d'octobre de l'année dernière. Plusieurs dizaines d'émeutiers avaient incendié des pneus, des palettes et des voitures sur une route. Une ligne SNCF avait été bloquée. Ils protestaient contre le refus de sortie de prison d'un membre de la communauté des gens du voyage qui voulait assister aux obsèques de son frère. Le secteur public tout aussi machiste que le privé. Les inégalités salariales ont la vie dure aussi dans l'administration. Constat de l'INSEE sans appel. Si vous êtes fonctionnaire et que vous êtes un homme, vous gagnez en moyenne 19% de plus que votre collègue femme. Explication avec Louis-Valentin Lopez.
Il faut remonter à 1983 pour trouver une loi, la loi Anicet-Loport. Elle exige alors l'égalité des salaires dans la fonction publique. Et aujourd'hui, on en est encore bien loin. L'écart se creuse même tout au long de la carrière. Analyse Isabelle Lebon, directrice adjointe du CREM, le Centre de Recherche en Économie et Management.
Par exemple, si je m'intéresse à la catégorie A, c'est-à-dire des cadres de la fonction publique, on va avoir un écart à 25 ans qui va être simplement de 3%. Et cet écart, eh bien, il va monter, quand on va se retrouver à 50 ans, à 23%. Plus de 23%.
Des disparités qui s'accentuent avec l'âge et des différences aussi selon les métiers. Dominique Meurs est professeur à l'Université Paris-Ouest.
Par exemple, les infirmières, il n'y a pratiquement pas de pénalisation, de même parmi les magistrats, alors qu'on va le trouver chez les enseignants ou chez les agents administratifs.
Mais au-delà de ces écarts, il y a aussi un problème d'accès au poste. C'est le fameux plafond de verre, ce plafond qui empêcherait les femmes de grimper l'échelle hiérarchique. Explication de Mathieu Narcy, maître de conférence à l'Université Paris-Créteil.
Il existe un certain nombre de positions hiérarchiques parmi les plus élevées de la fonction publique, dans lesquelles les femmes sont totalement absentes. On sait par exemple sur les trésoriers payeurs généraux qu'il y a très peu de femmes. Et c'est un des corps les mieux rémunérés de la fonction publique d'État.
En outre, selon l'étude, la France fait figure de mauvais élèves par rapport à certains de ses voisins, la Belgique, l'Espagne notamment, où les femmes dans la fonction publique touchent 95% de ce que gagnent leurs confrères masculins.
L'Assemblée nationale veut sauver le chèque. Les députés ont rétabli hier soir la durée de validité d'un chèque bancaire à 12 mois contre l'avis du gouvernement dans le projet de loi Sapin 2 discuté en nouvelle lecture. Cette durée de validité devait être abaissée à 6 mois pour encourager les autres moyens de paiement. paiement, avec une carte ou un virement par exemple. Mais des députés communistes et du MRC ont plaidé la cause des personnes âgées notamment, encore réticentes au paiement dématérialisé. On termine avec le temps de ce jeudi. Le soleil s'impose largement, sauf dans le nord-ouest. Les températures 7 à 16 degrés en général ce matin. Cet après-midi, on attend 21 degrés à Lille, 23 à Nantes, 24 à Paris, 25 à Nancy et à Marseille, 26 degrés à Orléans et jusqu'à 30 degrés quand même pour Toulouse.